Bonjour, et eh bien nous sommes dans l'émission Bienvenue en Europe, et c'est la première émission de l'année 2015. Alors on peut se dire, malgré les événements un peu dramatiques de la semaine précédente, bonne année, et puis on peut espérer que ce qui s'est joué dans ce drame va permettre de construire la fraternité. Donc bonne année doublement. Alors, l'actualité européenne. C'est peut-être ça, déjà.
Oui, bonjour Raymond. Ben, effectivement, on est dans une actualité absolument dramatique. On a vu, en tout cas au niveau de la France, puisqu'on est ici pour parler de l'Europe, mais au niveau de la France, pays de l'Union européenne, un sursaut absolument incroyable et exceptionnel, avec des réactions d'unité nationale tout à fait surprenante, et avec un soutien de tous les pays de l'Union européenne qui étaient auprès de la France pour marquer la solidarité de tous face au terrorisme et, disons-le carrément, à la barbarie. Et ce qui a été souligné, je trouve, c'est quand même un élan formidable des individus qui se retrouvent finalement unis pour défendre des valeurs communes. Et rappelons-le, les valeurs précisément communes de l'Europe se fondent très très largement sur le principe de la liberté, du respect d'autrui. Et tout ceci a été souligné en particulier par le président du Parlement européen qui a déclaré que nous, Européens, ne céderons jamais sur les valeurs de la liberté de la presse et d'expression, de tolérance et de respect mutuel, que cette attaque a voulu remettre en cause. J'appelle tous les citoyens à défendre ensemble nos valeurs. Alors il y a eu bien sûr le président de la Commission européenne qui est intervenu très rapidement pour marquer son soutien au gouvernement français et au peuple français, également avec le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk. Il y a eu des déclarations de soutien dans toute la communauté internationale, et ceci est quand même un marquage assez exceptionnel dans l'histoire, notamment de la construction européenne. On n'avait jamais vu un élan pareil. Et alors évidemment, les événements, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. Il y a, en tout cas derrière tout ceci, parce qu'on est ici une radio chrétienne, eh bien on peut souligner la liberté religieuse, c'est quand même essentiel, comme la liberté de la presse. Et ceci a d'ailleurs été souligné par notre Église. Et ceci est à rappeler parce que le manque de tolérance, l'absence, l'obscurantisme de certains fait qu'on est très très loin du courant qui a porté les peuples européens au lendemain de la période dramatique de la dernière guerre mondiale à finalement faire table rase du passé pour reconstruire un monde nouveau qui précisément est fondé d'abord sur le respect de l'autre, la liberté d'expression. Et donc tout ceci est absolument important et nous renvoie en tout cas, nous Français, aux principes fondamentaux de notre République, bien entendu.
Oui, donc à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Parce que là aussi, souvent on dit, mais vous pouvez, la liberté existe, mais lorsqu'il s'agit de se manifester comme chrétien ou comme musulman ou comme je ne sais quoi, c'est vrai que dans certains cas, on accepte la présence du religieux. Et hier, notre président de la République a été assisté à un service à la Grande Synagogue. Il me paraît important aussi que toutes les religions aient cet espace de liberté et qu'en même temps, elles respectent les autres. Participer au bien commun, et ça me paraît très effectivement important.
Alors au niveau européen, institutionnel, il y a eu une conséquence, c'est que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a en tout cas prévu de lancer un nouveau programme de lutte contre le terrorisme qui va être mis sur la table le plus rapidement possible avec un sommet spécial qui se réunira à Bruxelles le 12 février, qui réunira donc tous les chefs d'État et de gouvernement consacrés à la lutte antiterroriste. Donc l'Europe entière participe à partir de cet événement à essayer d'abord de défendre ses propres valeurs, comme on l'a souligné il y a un instant, mais également, on doit l'espérer, à se renforcer, mais à se renforcer dans le sens d'une solidarité plus approfondie. Alors lorsqu'il y a eu un courant, tous ces derniers mois, de dénigrement de la construction européenne, c'est au contraire plus d'Europe qu'il faudrait dans le cas présent. Et ceci nous rappelle que si l'on est tous unis, eh bien, en étant ensemble, avec nos différences, on peut construire, il faut l'espérer, un monde meilleur.
En tout cas, c'était la preuve. Hein, autant d'Européens à Paris, c'était la preuve que l'Europe existe et qu'elle existe même en France. Donc ça, c'était vraiment très, très important. Mais elle existait aussi même parmi les personnes, parmi les anonymes. Moi, je ne suis pas allée à Paris, je suis restée à Dreux, mais j'ai rencontré des personnes. Une m'a dit « Moi, je suis portugaise, mais je suis là parce que je suis européen. » J'ai interrogé aussi une personne italienne, d'origine italienne, installée en France, qui dit « Mais oui, l'Europe est là. » Et en fait, là aussi, que des personnes qui viennent d'ailleurs soient là, elles sont françaises maintenant, puisqu'elles habitent depuis si longtemps, mais là aussi, c'est important de se dire que au-delà de tous ceux qui dénigrent l'Europe, il y a aussi l'Europe des populations en bas. Et hier, ce qui m'est apparu intéressant, c'était qu'en fait, les politiques ont fait taire leurs appartenances politiques, leurs étiquettes politiques, leurs partis, pour être avec les personnes. Et je pense que c'est peut-être là aussi un moment important où les politiques écoutaient les populations qu'ils représentent. Parce que la démocratie déléguée, c'est une chose, mais il faut peut-être tenir compte aussi de ce que les gens disent et souhaitent. Alors, ceci dit, eh bien, nous allons faire une première pause. Bien, nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe, et justement Bienvenue en Europe avec ce début d'année a commencé une nouvelle présidence. Alors parlons un peu des nouvelles personnes, leur nouvelle présidence, nouvelle entrée dans l'euro.
Oui, il y a des nouveautés en ce début d'année 2015, c'est que comme on sait, tous les 6 mois, il y a une présidence tournante de l'Union européenne, ou plus exactement du Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'un pays prend la présidence pendant 6 mois d'un ensemble de réunions qui se tiennent dans l'immeuble du Conseil à Bruxelles. Et ces réunions, il faut quand même le rappeler, il y a quand même à peu près quelques 200 comités. Il y a des réunions qui se tiennent toutes les semaines, des réunions de travail avec tous les États membres. Il y a la réunion hebdomadaire du COREPER, du comité des représentants permanents, tout ceci avec tous les conseils spécialisés. C'est un pays qui dirige les débats en présence de la Commission européenne et en présence de tous les autres États membres de l'Union européenne. Et le rôle de cette présidence, c'est d'être le simplificateur, d'être celui qui essaie de dégager des compromis. Et d'ailleurs, ce rôle est tellement important au niveau de la neutralité que cette présidence doit assumer, que la présidence et elle-même ne représente pas son propre pays. Alors actuellement, c'est la Lettonie qui prend la présidence à la suite de la présidence italienne. Eh bien, le président letton qui présidera, ou la présidente qui présidera les réunions, telle ou telle réunion, à côté d'elle, il y aura l'État letton qui est représenté par une place autour de la table. Donc il y a le président et il ne représente donc plus à ce niveau-là son propre État. C'est important à souligner parce que justement ça fait partie de cette pédagogie européenne de trouver un consensus et de dégager le bien commun.
Ça me paraît très important.
Donc, alors, c'est un petit pays, la Lettonie. C'est la première fois, bien sûr, que ce pays prend cette présidence. À partir de sa capitale, Riga, donc il y a déjà eu, début janvier, une réunion de travail avec la Commission européenne pour dégager un programme de travail qui sera, pendant ces 6 mois, à développer. Alors, chaque présidence essaie de dégager un certain nombre de priorités. C'est un petit État qui a à peine un peu plus de 2 millions d'habitants. Et généralement, les petits États prennent très très à cœur ce rôle de la présidence. Et si bien qu'au bout du compte, il y a bien souvent, historiquement en tout cas, lorsqu'on se retourne sur ce qui s'est passé autrefois, ce sont souvent les petits pays qui ont les meilleures présidences. Alors, à côté de cela, il faut quand même rappeler qu'au plan institutionnel, il y a maintenant, dorénavant, depuis le traité de Lisbonne, un président permanent, qui est un Polonais, qui a aussi pris ses fonctions à la fin de l'année passée, qui est Donald Tusk, qui a remplacé le Belge Van Rompuy. Alors, ce président-là, lui, il préside le Conseil européen. Donc, il ne faut pas confondre la présidence tournante qui existait depuis le début du traité de Rome, et puis la présidence permanente du Conseil européen, qui est différent. Ce ne sont pas les conseils de ministres spécialisés, en tout cas.
Donc, c'est vrai que ça mériterait quand même.
C'est pas toujours simple à expliquer. C'est pas toujours simple à expliquer, mais je crois que c'est une bonne chose qu'on ait conservé cette présidence tournante, ne serait-ce qu'au plan pédagogique, pour que chaque pays se sente véritablement très concerné par les affaires européennes et à prendre à bras-le-corps, en quelque sorte, le rôle d'être un levier et aussi un leader pour essayer de mettre en avant les intérêts de l'Union européenne.
C'est aussi intéressant de rappeler ça pour autre chose, me semble-t-il. C'est le fait que souvent on dit « Bruxelles a décidé ». Non, en fait, ça n'est jamais Bruxelles qui décide, mais c'est l'ensemble des pays d'Europe qui décide et qui décide autour de, alors disons, actuellement, ça va être autour de la présidence latvienne, Lettonie-Latvie. Mais ça me paraît effectivement très important parce que souvent on nous dit Bruxelles. Non, ce n'est pas Bruxelles. Il s'agit de la santé. C'est votre ministre de la Santé associé aux autres ministres de la Santé. Il s'agit d'affaires sociales. Ce sont les non-ministres des affaires sociales qui ont pris les décisions. Et je crois que c'est très important parce qu'à force d'entendre dire « Ah, c'est Bruxelles », alors c'est Bruxelles évidemment quand ça ne va pas bien ou quand ça ne plaît pas, et puis c'est nous quand ça plaît. Il faudrait peut-être redonner à César ce qui est à César.
Vous faites bien de souligner ceci. C'est tout à fait important parce que bien souvent, c'est vrai que les institutions européennes ne sont pas toujours facile à expliquer et à comprendre par le grand public, parce que c'est un peu différent du système que l'on a au plan national. Mais c'est très important de vérifier et de savoir que c'est un traitement en commun des affaires que l'on a en commun. Et tout ceci pour rejoindre précisément l'intérêt du bien commun à essayer de développer. Alors cette présidence lettonne a retenu un certain nombre de priorités, comme il se doit, c'est son devoir. Elle les a dégagées avec l'aide de la Commission européenne. Je puis en parler en connaissance de cause parce que j'ai déjà participé autrefois à ce genre de réunion pour représenter la Commission et de mettre sur la table tout ce que l'on pouvait dégager pour retenir un certain nombre de priorités. Alors les pays, la Lettonie, a mis en avant la compétitivité de l'économie européenne, l'agenda numérique et la politique étrangère comme les trois grandes priorités des 6 mois à venir. Il se trouve, et ceci n'est pas une surprise, c'est que, évidemment, elle s'appuie là-dessus sur le programme du président Juncker de la Commission européenne qu'il avait déjà mis dans son propre agenda lorsqu'il a été nommé, confirmé par le Parlement européen en tant que président de la Commission. Ce qui est intéressant de souligner, et j'en arrête là avec la présidence lettonne, c'est que il faut voir que en termes de géopolitique, la Lettonie, comme les autres États baltes, sont dans une situation tout à fait particulière. Et lorsque l'on voit qu'en matière de politique étrangère, l'une des priorités de cette présidence sera, comme on peut s'y attendre, du fait de sa frontière avec la Russie, et compte tenu de ce qui se passe en Ukraine et aux marges de tout l'ancien empire, entre guillemets, soviétique, dont faisaient partie précisément les pays baltes, il y a une sensibilité tout à fait évidente et très forte des pays baltes, et en particulier de la Lettonie, à s'ancrer encore davantage dans l'Europe et à montrer que l'Europe, l'Union européenne, c'est quelque chose qui est véritablement à consolider, ne serait-ce que précisément pour se prémunir d'aventures, on ne sait trop lesquelles, et en tout cas on n'ose pas songer au pire, avec le voisin russe.
Alors, il me semble qu'on peut faire très facilement la transition avec le nouveau pays qui vient de regagner l'euro, même si l'euro baisse. En fait, il y a quand même des pays qui sont intéressés par l'euro.
Alors, effectivement, la Lituanie, donc autre pays balte, troisième des pays baltes, qui se trouve entre, si on prend la géographie, on a l'Estonie au nord, la Lituanie au milieu et la Lettonie en bas. Parmi ces trois, et après, alors il y a la Pologne, donc il y a une continuité territoriale. Pour ces pays-là, comme on vient de le souligner, le fait de leur histoire récente, puisqu'ils se sont dégagés de la tutelle russe, eh bien, ils mettent en avant en particulier le partenariat, ce qu'ils appellent le partenariat oriental, qui est un accord d'association passé entre l'Union européenne et tous les anciens pays qui sont en marge de l'Union européenne, mais qui étaient dans le passé dans l'URSS. Alors il y a notamment l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Et donc ces pays veulent absolument trouver quelque chose qui les différencie de la Russie, et les pays baltes, eux, poussent évidemment à renforcer ce partenariat, ce qui ne fait pas évidemment plaisir à la Russie, qui voit là une atteinte à sa zone d'influence.
Oui,
alors la Lituanie qui rentre maintenant dans la zone euro, c'est parfaitement symbolique, outre le fait que ce pays s'est battu pied de toutes ses forces pour dégager au plan économique et financier une stabilité, une solidité qui lui a permis de rentrer dans les critères dits de Maastricht, hein, qui lui permettent de rejoindre l'euro. Donc dans un premier temps, la Lituanie avait voulu rentrer plus vite dans l'Europe, dans la zone euro, et on lui a dit de faire un certain nombre d'efforts. Elle les a fait. Et ces efforts sont vraiment à souligner parce qu'ils ont beaucoup souffert pour parvenir à un taux, par exemple, une convergence économique avec une dette très faible par rapport à la France, etc. Et donc ce pays a rejoint la zone euro et on peut le souligner, c'est surtout un grand symbole, outre le fait que la zone euro, c'est un tout et ça représente vraiment le fond et le futur politique, nous l'espérons, de l'intégration européenne.
Donc 20 États sur 28 dans la zone euro. Une petite pause musicale. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Bienvenue en Europe. Donc, après avoir évoqué l'actualité européenne, eh bien, poursuivons un peu dans l'agenda de l'Europe, ou bien, disons, son actualité.
Alors, il y a, dans l'actualité européenne de ce mois-ci, à souligner la présentation par la Commission européenne de son programme de travail, précisément pour l'année 2015. Alors, c'est un exercice habituel. En début d'année, la Commission présente ce qu'elle va mettre sur la table. Et par rapport à ce qu'on disait il y a un instant, c'est que ce n'est pas elle qui décide, elle propose. Donc elle met dans un programme des propositions qu'elle soumet au Conseil et au Parlement européen, qui, ces deux instances réunies, ont le pouvoir de décisionnel. Donc le pouvoir législatif, c'est le Conseil plus le Parlement. Et il faut que ces deux institutions soient d'accord pour que les propositions avancées par la Commission européenne puissent avoir un effet. Alors, par rapport aux années antérieures, et c'est là où c'est intéressant.
Mais parlons plutôt des nouveautés. Parce
des
que
nouveautés, parce que.
Ne tombons pas dans le détail.
Tout à fait. Le programme de travail, jusqu'à présent, c'était un immense catalogue où toute la Commission essayait de mettre un maximum de projets sur la table en espérant qu'un certain nombre passerait. Avec la commission Juncker, il y a, il faut le souligner, vraiment un changement radical par rapport au passé. Et je crois personnellement que c'est un bien. Je le dis d'autant plus que moi-même, j'ai participé très activement à l'élaboration d'un certain nombre de programmes de travail autrefois quand j'étais à la Commission européenne. Et alors, cette nouveauté est à souligner, c'est que pour la première fois, la Commission, au contraire, se concentre sur un nombre très restreint de propositions et a éliminé carrément toute une série d'autres propositions, sachant que les propositions sont élaborées souvent à la suite de demandes des États. Donc la Commission, ça tombe pas du ciel. Ce qu'elle propose, c'est par rapport à ce qu'elle a vu poindre au niveau des États à travers des réunions de travail, à